VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h temps universel dans 5 minutes Carrefour avec Eric Manirakiza, mais tout d'abord la nouvelle. C'est maintenant officiel, le Burundi quitte la Cour pénale internationale. Le président Pierre Nkurunziza a signé aujourd'hui un décret à ce sujet, Eddy Sango.
Le président Pierre Nkurunziza précise que ce décret est la suite logique du vote la semaine dernière au Parlement burundais de se retirer du statut de Rome. Les ONG ont aussitôt réagi, accusant les autorités burundaises de vouloir cacher des crimes. Le Burundi est plongé dans des violences depuis 2 ans suite à la candidature du président Nkurunziza à un 3e mandat. Des centaines de personnes ont été tuées. Selon la CPI, le Burundi restera lié à la juridiction internationale au moins pour 1 an. Les enquêtes déjà ouvertes devront se poursuivre et Bujumbura est obligé de coopérer avec la CPI.
En RDC, l'accord entre la mouvance présidentielle et une frange de l'opposition pour un report de la présidentielle à avril 2018 ne résout pas la crise. Paris, en effet, s'inquiète du risque majeur de violence. Éric Manirakiza.
Pour le chef de la diplomatie française, renvoyer l'élection à 2018 sans l'aval de l'opposition ne règle pas le problème. Jean-Marc Ayrault dit craindre un risque majeur d'affrontements et de manifestations violentes et de répression. Selon le patron du Quai d'Orsay, la seule façon de sortir de la crise dépend du président Kabila, renoncer à briguer un autre mandat, mais aussi fixer une date exacte de la présidentielle. L'Église catholique congolaise le demandait également avant de se retirer de ce dialogue, faute de rechercher un consensus plus large. L'accord annoncé lundi ne tient pas compte des exigences de la majeure partie de l'opposition. Le rassemblement constitué en juin derrière Étienne Tshisekedi n'entend pas accepter la prolongation de Joseph Kabila au terme de son mandat le 20 décembre. Par ailleurs, il a appelé à déjourner ville morte demain mercredi dans tout le pays pour un avertissement à M. Kabila. L'Union européenne et la France menacent déjà de sanctions contre Kinshasa.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Mali, 3 roquettes ont été tirées aujourd'hui sur la ville de Gao, dans le nord du pays. Une nouvelle preuve du fait que les groupes djihadistes restent actifs dans la région, en dépit de l'accord d'Alger, censé mettre fin aux violences. Plus de détails avec notre correspondant à Gao, Boubacar Touré.
Il était un peu plus de 4 heures du matin, heure locale, lorsque des roquettes ont été lancées en direction de la ville. Le bilan fait état d'une jeune fille légèrement blessée et une maison endommagée au quartier Atitibougou où une roquette est tombée. Quelques instants après, 2 hélicoptères ont décollé de la base militaire de la force Barkhane, basée à Gao, pour tenter de repérer les auteurs. Les populations prises de panique sont sorties néanmoins très tôt ce matin pour vaquer à leurs affaires. En tout cas, les terroristes sont toujours présents dans la zone et ne s'avouent pas vaincus. Les attaques piégées, les braquages et les enlèvements de véhicules sont courants dans la zone. Il faut rappeler que la dernière fois où des roquettes ont été lancées sur la ville de Gao remonte en avril 2015, où une jeune fille a été victime. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Le roi Mohamed VI du Maroc entame ce mardi une tournée dans 3 pays africains. Son pays cherche à réintégrer l'Union africaine qu'il a quittée il y a plus de 30 ans. Nani Talani.
Le souverain marocain effectuera des visites officielles au Rwanda, en Tanzanie et en Éthiopie. C'est la première fois que le roi se rendra dans cette partie de l'Afrique anglophone. Ces pays ont un intérêt stratégique pour Rabat, qui a exprimé sa volonté de réintégrer l'Union africaine, et ce retour doit être validé par un vote au sein de la commission siégeant à Addis Abeba. Le Maroc a officiellement demandé en septembre à réintégrer l'organisation panafricaine qu'il avait quittée en 1984 pour protester contre l'admission du Sahara occidental. Cette ancienne colonie espagnole est contrôlée depuis 1975 par le Maroc, qui veut une large autonomie sous sa souveraineté. Par contre, le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, milite pour l'indépendance et réclame un référendum d'autodétermination. Le roi Mohamed VI avait d'ailleurs déclaré que la décision de son pays de réintégrer l'Union africaine ne signifiait pas le renoncement du royaume à ses droits sur le Sahara occidental.
Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Bonne soirée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Heureux de vous retrouver, chers auditrices et auditeurs de Carrefour. Eric Manilakis en votre compagnie. Aujourd'hui, Carrefour se focalise sur la déforestation au Madagascar notamment.
Pour pouvoir avoir davantage de terres, ils ont pour habitude de défricher la forêt, donc de réduire les couverts forestiers, ce qui conduit naturellement à terme à mettre en péril les ressources naturelles dont ils dépendent.
Guillaume Chiron est spécialiste de la biodiversité. Il nous expliquera ce qui se passe dans l'île de Madagascar au chapitre du changement climatique. Vous allez comprendre que les ouragans sont mieux anticipés, mais gardent leurs secrets. Nous irons aussi à Port-au-Prince. Haïti comptabilise le plus de dégâts des dernières catastrophes naturelles. Et surtout, découvrons ensemble que les oiseaux chantaient déjà à l'ère des dinosaures. Bienvenue à tous. L'homme a été doué de raison et de force créatrice afin de multiplier ce qui lui a été donné. Mais jusqu'à présent, il n'a rien fait que détruire. Il y a de moins en moins de forêts, les rivières se dessèchent, le gibier disparaît, le climat se détériore. De jour en jour, la terre devient de plus en plus pauvre et de plus en plus laide. C'est le constat de Anton Tchekhov. Et dans Carrefour d'aujourd'hui, nous jetons un autre regard sur ce qui se passe au Madagascar. La forêt se fait rare dans l'île. Les populations riveraines des parcs forestiers sont tombées dans le cercle vicieux de brûler davantage de forêts pour de nouveaux espaces agricoles. Une solution qui ne peut plus durer, sauf à accorder une chance au reboisement mené sous l'impulsion de ONG française. Nanit Talani.
Il y a 10 ans, il y avait encore des forêts sur la moitié des flancs de montagne dans la commune rurale de Rano Mafana, qui regroupe 22 000 habitants éparpillés sur plusieurs hameaux. Aujourd'hui, les habitants subissent de plein fouet les conséquences de leurs pratiques. Avec la déforestation, les cours d'eau des montagnes sont à sec et ne peuvent plus irriguer suffisamment les cultures des plaines, poussant les villageois à déboiser encore davantage pour trouver des terres fertiles. Plusieurs ONG, en partenariat avec l'Agence française de développement notamment, pilotent un programme de conservation des forêts dans la région. Lancé en 2008, ce projet de 4 millions d'euros a notamment permis de créer dans une vingtaine de villages du sud de la Grande Île des communautés de base, COBA, pour délimiter des centaines d'hectares de territoire où toute déforestation est rigoureusement interdite. Sans la forêt, ce sont toutes les facettes de la vie des agriculteurs qui vont disparaître, explique Mathieu Bayrel de l'ONG Etcetera, qui coordonne le programme. Si on ne protège pas les forêts en amont, la productivité agricole diminue en aval. Une fois que ce lien est fait dans la tête des gens, c'est plus facile d'agir là-dessus, plaide Hélène Gobert, chargée des projets développement rural et environnement à l'AFD à Madagascar. Plusieurs projets accompagnent aussi les COBA, à la fois pour proposer des alternatives agricoles et améliorer les conditions de vie grâce par exemple au reboisement. La forêt, déjà victime des pratiques agricoles, est aussi une cible de choix pour les villageois qui exploitent le bois. En quelques coups de machette, Mamonji entretient le bosquet d'acacia et eucalyptus replanté dans son village en 2012. Grâce à ce reboisement, on ne va plus se servir dans la forêt pour notre charbon ou notre bois de construction, se félicite-t-il. Un arbre, ça met du temps à pousser, donc les effets ne sont pas visibles à court terme. On a besoin de projets qui durent longtemps pour espérer des changements de pratique, note Hélène Gobert. Le message commence à passer et on commence à en voir des effets. Mais ce sera long car on parle de changements de mentalité sur les pratiques parfois millénaires, ajoute Mathieu Bayrel. Les défis demeurent titanesques à l'échelle de ces territoires aussi grands que la France, où plus de 9 malgaches sur 10 vivent encore sous le seuil de pauvreté.
Tout à fait, Nanit. La pauvreté constitue un défi majeur dans la protection de la forêt. Guillaume Chiron, spécialiste de la biodiversité à l'Agence française pour le développement, nous parle de l'impossible équation des paysans de Madagascar qui brûlent la forêt pour survivre.
On peut comprendre par là que les paysans malgaches ont besoin de davantage de terres pour pouvoir